Marcel !
Le passé est caché en quelque objet matériel que nous ne soupçonnons pas.
Au moment où j'avais reconnu inconsciemment le goût de la petite Madeleine.
Un été avec Proust. Une émission de Laura El Maki.
Le passé est caché en quelque objet matériel que nous ne soupçonnons pas. Quelques lignes après le drame du coucher dans Du côté de chez Swann, le narrateur tente de rassembler ses souvenirs de la maison de Combray. La lumière, l'escalier, quelques pièces et bien sûr sa chambre lui reviennent à l'esprit. Mais il constate, pour l'adulte qu'il est devenu, que tout cela est désormais mort pour lui. Mais est-ce pour autant, je cite, « mort à jamais » ? Le héros n'en est pas si sûr et reste persuadé qu'il est possible de retrouver le passé par quelque objet matériel que le hasard voudra bien mettre sur son chemin. C'est encore le début d'À la recherche du temps perdu et le narrateur a l'intuition de quelque chose d'immense qui sera le terreau de son œuvre à venir. Et cette chose immense prend la forme, un peu plus loin, d'une madeleine. Ce soir donc, il sera question du gâteau le plus célèbre de la littérature française, celui que le narrateur fait fondre dans sa bouche et qui est à l'origine de la révélation de la mémoire involontaire. Quel langage Proust utilise-t-il pour écrire la sensation et comment parvient-il ainsi à nous éveiller à notre propre sensibilité? Julia Kristeva a fait de ces questions la matière première de son livre « Le temps sensible » et elle nous en parle ce soir.
Bonjour Monsieur Mehdi.
Bonjour Monsieur.
Le musée Proust est né en 1972.
Oui.
Vous êtes là en 1973 et donc depuis 29 ans, vous confectionnez cette fameuse petite madeleine.
Oui, des madeleines, en pâtisserie, ça se fait toujours. Mais là, l'originalité, c'est simplement la coquille de Saint-Jacques. C'est ça l'originalité d'Hillier.
C'est-à-dire telle que l'a décrit Marcel Proust.
Voilà. Mais sinon, la composition de la madeleine est à peu près la même. Il faut des œufs, du sucre, du lait, du beurre, de la farine, de la poudre à lever. Et vous mélangez, vous attendez que ça repose, et après vous moulez, vous cuisez, et voilà les madeleines. C'est vrai que sans Proust, on aurait du mal quand même à pouvoir vivre normalement, quoi. Mais je n'ai pas le temps de le lire. Je vous assure que quand je vais être à la retraite, eh ben je vais lire tout Proust.
Bonsoir Julia Kristeva.
Bonsoir.
Ce boulanger qui habite à Hillier, qui est en fait Combray dans La recherche de Marcel Proust, et qui nous donnait les ingrédients de la fameuse madeleine, le gâteau le plus célèbre de la littérature française, gâteau qui constitue l'entrée en matière de votre livre Le temps sensible. Est-ce qu'on a raison de penser directement à la madeleine quand on parle de Proust ?
On n'a pas raison, il faut lire tout le texte, tout le livre, mais c'est la situation actuelle et encore je ne suis pas sûre que les internautes s'abreuvent de madeleine, mais puisque c'est vraiment le blason de Proust, parlons-en.
Alors oui, c'est le blason de Proust et cette scène de la madeleine arrive vraiment au tout début de l'œuvre, après la célèbre scène du coucher. Et ces deux moments sont très liés parce qu'à chaque fois la mère y tient un rôle central. C'est elle qui donne le gâteau à son fils en guise de goûter. Est-ce qu'on pourrait revenir un instant sur cette célèbre scène du coucher qui précède justement celle de la madeleine?
Oui, alors on commence par ce que vous avez déjà évoqué. Il se trouve dans sa maison à Hillier, là où nous avons entendu le boulanger, deux étages, mais réduit à une sorte de pan lumineux. Pourquoi ? Par l'arrivée toujours inopportune de Monsieur Swann. Monsieur Swann arrive, il prend maman et le petit Proust est malheureux.
Il lui enlève, oui, bien sûr.
Il lui enlève maman, donc il est triste, il rentre dans sa chambre et il traverse ce moment de chagrin. Et à partir de là, c'est un traumatisme de séparation avec la mère qu'il ne peut pas supporter et il se dit dans un premier temps que l'enfance est perdue à jamais, tellement c'était triste qu'il a effacé ça de son esprit. Mais, puisque c'est Proust, la tristesse va être traversée. Il avait dit déjà à un autre endroit que le lecteur connaisse peut-être, et dans votre émission on a peut-être déjà parlé, les idées sont des succès d'années des chagrins. Donc ce chagrin de la séparation va donner lieu à des idées, et parmi ces idées, l'idée de la mort. L'enfance est-elle morte? Si vous permettez, on va arriver au mot de madeleine, parce que on arrive à voir comment il condense dans cette madeleine ce qu'il appelle les intermittences du cœur, les intermittences des sensations extrêmement différentes, et qui ne sont pas seulement gustative, mais qui touche à les questions de la profanation, les questions de la mort.
Le passé va se réveiller à travers donc les sensations, l'odeur des aubépines, plus loin peut-être la sensation visuelle, la beauté des clochers de Martainville. Tout de suite, je vous propose qu'on écoute ce fameux extrait de La Madeleine, extrait donc de Du côté de chez Swann. C'est André Dussolier qui nous fait la lecture.
Je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi. Isolé, sans la notion de sa cause, il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse. Ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment. Ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle? Que signifiait-elle? Où l'appréhender? Je bois une seconde gorgée, où je ne trouve rien de plus que dans la première. Une troisième, qui m'apporte un peu moins que la seconde. Il est temps que je m'arrête. La vertu du breuvage semble diminuer. Il est clair que la vérité que je cherche n'est pas en lui, mais en moi. Il l'y a éveillé, mais ne la connaît pas et ne peut que répéter indéfiniment, avec de moins en moins de force, ce même témoignage que je ne sais pas interpréter et que je veux au moins pouvoir lui redemander et retrouver intact à ma disposition tout à l'heure pour un éclaircissement décisif. Je pose la tasse et me tourne vers mon esprit. C'est à lui de trouver la vérité, mais comment ? Grave incertitude toutes les fois que l'esprit se sent dépassé par lui-même, quand lui, le chercheur, est tout ensemble le pays obscur où il doit chercher et où tout son bagage ne lui sera de rien. Chercher, pas seulement, créer. Il est en face de quelque chose qui n'est pas encore et que seul il peut réaliser, puis faire entrer dans sa lumière.
Alors il y a vraiment une volonté de la part de Marcel Proust de non seulement faire vivre des émotions, des sensations, mais vraiment des morceaux de réalité. Alors, on le sent bien dans cet extrait.
On le sent et pour comprendre comment il nous les a fait sentir, je crois que c'est important de nous arrêter sur les différents paliers. Un véritable voyage à travers nos sens, notre esprit et notre corps. On était arrivé à l'idée que peut-être si c'est perdu, si l'enfance est perdue, il y a des âmes mortes, comme le disent certaines croyances, selon lesquelles des pans du passé se retrouvent dans quelques éléments. Dans quelques éléments insignifiants. Et l'élément insignifiant va être cette Madeleine, justement, qu'un jour, dit-il, lorsque tout était le théâtre du drame du coucher n'existait plus pour lui, il se retrouve avec sa mère en train de déguster une tasse de thé accompagnée, je cite, d'un de ces gâteaux court et dodu, appelée « Petite Madeleine » en majuscule, qui semblait avoir été moulée dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Alors, c'est un moulage insolite, et ces madeleines vont s'imposer entre le narrateur et sa mère.
Pour revenir au texte qu'on vient juste d'écouter et qui nous était lu par André Dussolier, la madeleine interroge le narrateur et le fait se sentir moins médiocre. Alors comment c'est possible ?
C'est aussi quelque chose de très intéressant. Il nous donne une vision très, très ramassée d'une excitation. Le gâteau touche le palais. Et ce sentiment le plus infantile, le plus intime, le plus archaïque de l'être vivant avec l'air, la nourriture, le mamelon de la mer, déclenche, dit-il, quelque chose d'extraordinaire en moi. C'est ce qu'on entend dans le texte lu par Dussolier. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Donc un plaisir sans cause, on pense tout de suite l'amour et sans pourquoi. Donc le souvenir sensoriel, le souvenir gustatif de la Madeleine est identique à l'état amoureux. Ensemble, ils constituent donc cette essence du narrateur et il va essayer de se situer donc aux antipodes de la médiocrité de la vie grâce à ce plaisir qu'il vient de ressentir.
Il trouve la joie. Il trouve
ça
enfin
va être
la joie.
La petite Madeleine, un antidépresseur. Il va essayer de goûter de nouveau pour que ce plaisir se reproduise et qu'il échappe au chagrin de la médiocrité existentielle et du fait qu'il n'arrive pas à se souvenir du passé.
Alors, ce dont il se rend compte, et c'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'un élément extérieur, étranger à lui-même, peut le révéler à lui-même.
Alors, il pense d'abord que c'est un élément extérieur et il commence à reprendre du thé et de la madeleine. Une fois, deux fois, il se bouche les oreilles,
il essaie
de faire le vide,
il
essaie de
comprendre,
il fait le vide. Et finalement, il se rend compte que le plaisir, cet amour de quelque chose d'inconnu, ne vient pas de l'objet, mais de lui-même. Chercher, pas seulement, créer. Il est en face de quelque chose qui n'est pas encore et que seul il peut réaliser. Donc, à la recherche de signifie finalement une poésis, création.
Une poésis, une création, voilà.
À la recherche de ne veut pas dire que je vais chercher seulement un passé, comme on le croit en lisant Proust. Ça veut dire qu'en trouvant le passé, finalement, je recrée le passé. C'est ma création, mon art poétique, la poésis, qui est la véritable recherche. D'où, qu'est-ce qu'il trouve Proust, en faisant cette recherche, il trouve la capacité en lui de créer un monde imaginaire. C'est la littérature qui va être le sens de la vie. Le sens de la vie n'est pas à l'extérieur, ni dans l'opinion, ni même dans un objet érotique, fût-il une madeleine ou fût-il autre chose, c'est en moi. C'est ma création, ma manière de créer des mots en contact avec cette sensation qui va les réinventer. C'est une néo-réalité que je vais créer.
Un été avec Proust.
Certes, ce qui palpite ainsi au fond de moi, ce doit être l'image, le souvenir visuel qui, lié à cette saveur, tente de la suivre jusqu'à moi. Mais il se débat trop loin, trop confusément, à peine si je perçois le reflet neutre où se confond l'insaisissable tourbillon des couleurs remuées. Mais je ne peux distinguer la forme, lui demander comme au seul interprète possible de me traduire le témoignage de sa contemporaine, de son inséparable compagne, la saveur, lui demander de m'apprendre de quelle circonstance particulière, de quelle époque du passé il s'agit. Arrivera-t-il jusqu'à la surface de ma claire conscience, se souvenir l'instant ancien que l'attraction d'un instant identique est venue de si loin solliciter, émouvoir, soulever tout au fond de moi. Je ne sais. Maintenant, je ne sens plus rien. Il est arrêté, redescendu peut-être. Qui sait s'il remontera jamais de sa nuit.
Alors, j'aimerais qu'on revienne justement à ces mots, à ces mots qu'il choisit. Il parle de tressaillement. Plus loin, il dit ce qui palpite ainsi au fond de moi. Il y a tout un vocabulaire donc de la sensation qui aide le narrateur à restaurer nettement ce qu'il ressent et à nous le donner à lire.
Il décrit ce plaisir de manière très sobre et extrêmement pudique, mais qui, quand on connaît son histoire et quand on lit les autres pages de la recherche, donc ce n'est pas une invention d'interprète mal avisé, ressemble bien à la description d'une excitation sexuelle. Je relis le texte. « Je sens tressaillir en moi quelque chose qui se déplace, voudrait s'élever, quelque chose qu'on aurait désancré, à une grande profondeur, cela monte lentement. Qu'est-ce que c'est ? J'entends, moi, un plaisir sexuel qui peut, ou pas, être une masturbation. On a beaucoup parlé de la masturbation de Proust, mais qui est ici, indubitablement, décrit dans son trajet intense, qui n'épargne ni la bouche, ni l'érection, et qui se nourrit de perceptions visuelles. Ce sont des fantasmes, des représentations, une image. Le goût va rencontrer une image qui passe par une excitation, par une énergie dans le corps, mais ça ouvre la voie d'une représentation, un insaisissable tourbillon de couleurs réunies.
On a un bel exemple de temps sensible, hein, là pour du coup c'est vraiment le terme, avec ce passage de la Madeleine et cette lecture psychanalytique qu'on peut faire également de ce passage. Merci beaucoup Julia Kristeva. On se retrouve demain et nous continuerons notre exploration du corps. Il ne sera plus question de la Madeleine, mais du regard. Passez une belle soirée, à demain.
chair, filled with despair. There's no one could be so sad, with gloom everywhere. I sit and I stare. I know that I'll soon go mad. In